Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais utiliser quelques transparents pour que vous puissiez visualiser certains des points dont vous allez parler ce soir. Donc, nous allons partir. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Voilà. Nous allons partir des banques, hein, bien entendu, tout à l'heure. Les camarades et moi, nous pourrons répondre à toutes vos questions sur les autres aspects de la crise financière. Et l'idée ce soir est de débuter en se concentrant sur ce qui s'est passé avec les banques. Alors je crois qu'il y a dans cette question des banques et de la crise une partie qui est peut-être un peu spectaculaire, qui est les pertes des banques. Alors Jean-Marc citait l'estimation du FMI à près de 1 000 milliards de dollars. Je crois que ces estimations ne veulent pas dire grand-chose parce qu'elles mélangent beaucoup de facteurs qui sont pas normalement ajoutables, des vraies pertes, des pertes liées à des estimations sur les marchés, des pertes qui seront reprises plus tard. En réalité, le vrai coût de la crise pour les banques est beaucoup plus petit que le chiffre du FMI, c'est probablement de l'ordre de 300 milliards de dollars. Et je crois que c'est pas ça, même si c'est ça qui a fait le titre des journaux, pardon Jean-Marc, mais je crois que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important quand on réfléchit à ce qui s'est passé pendant cette crise, c'est d'une part de se demander ce qui a provoqué du côté des banques le démarrage de la crise, et ensuite, ce qui va se passer maintenant, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir un monde bancaire qui fonctionnera différemment? Est-ce que c'est bon ou mauvais pour les économies? Est-ce que des choses vont se réformer? Ou est-ce qu'au contraire, la crise va créer des difficultés durables? Alors, je vais faire quatre points, et bien sûr, Pierre Jaillet et Olivier et d'autres interlocuteurs de présentation ce soir continueront. Je voudrais commencer par la titrisation, pour y revenir. Et pour dire que c'est un point qui est extrêmement important et expliquer pourquoi ceci finalement a été assez largement la cause, le point de départ de l'ensemble du problème que nous avons eu, pas seulement avec les banques, mais globalement dans l'ensemble de la finance. Alors qu'est-ce que c'est que la titrisation, hein, pour faire simple, certains d'entre vous connaissent ça très bien, c'est une technique qui permet aux banques de ne pas garder les crédits qu'elles font dans leur bilan, mais de les transformer en actifs financiers et de les vendre sur les marchés financiers à des investisseurs sous la forme de titres, hein, qui sont, disons, des quasi-obligations. Et ceci a été extrêmement développé, en particulier dans le monde anglo-saxon. Je vais vous montrer un graphique ici. Alors, pour comprendre ça, ce que vous avez en vert et l'unité en vertical, c'est des points, des pourcentages du produit intérieur brut des États-Unis. Ce que vous avez en vert, c'est l'encours de crédit, hein, le niveau du crédit qui a été fait par les banques américaines. Donc vous voyez, au début de 2008, les banques américaines ont fait des crédits au total, hein, pour à peu près 140% du PIB des États-Unis, ce qui fait pas loin de 20 000 milliards de dollars. Et puis ce que vous avez en rouge, c'est ce qu'elles ont gardé dans leur bilan. Hein, donc vous voyez, ça fait à peu près trois fois moins. Hein. Donc les deux tiers des crédits faits par les banques américaines ont été titrisés, hein, sous une forme ou sous une autre, c'est-à-dire ne sont plus dans le bilan des banques, sont sous forme donc d'actifs financiers détenus par d'autres banques et par des assureurs, des caisses de retraite, des investisseurs de tout type. La titrisation est moins développée en Europe qu'aux États-Unis. Vous avez ici le même graphique pour la zone euro. Vous voyez que la partie titrisée des crédits, hein, donc l'écart entre les deux lignes, ça représente un petit 30% hein, du montant des crédits qui a été distribué. Donc on est à des niveaux de titrisation plus faibles qu'aux États-Unis, mais qui accélèrent sur la fin. Alors, la titrisation a été très fortement encouragée par les banques centrales et par beaucoup d'économistes, avec un argument qui est vrai, hein, et qu'il faut garder à l'esprit, qui est un argument d'ailleurs relativement de bon sens, qui consiste à dire que les grandes crises économiques, c'est des crises bancaires, c'est des crises de faillite en chaîne des banques, et ces crises peuvent se produire quand il y a des chocs sur les économies qui font que les emprunteurs ne remboursent pas leurs crédits, hein, font défaut. À ce moment-là, les banques elles-mêmes font défaut, et quand une banque commence à faire défaut, elle entraîne les autres par effet domino, hein, parce que les banques se prêtent entre elles, comme vous le savez. Et donc, et c'est une thèse que l'ancien président de la Réserve fédérale, hein, Greenspan, avait longtemps et souvent évoquée, il faut éviter que la totalité des risques de faillite des emprunteurs soit portée par les banques, hein, et soit concentrée dans les bilans des banques, donc il faut que les banques puissent se débarrasser d'une partie des risques de faillite. Et pour faire ça, la suggestion consiste donc à dire que les banques vont saupoudrer, comme on dit, les risques de faillite sur les marchés. Donc au lieu d'avoir tous les risques de faillite des emprunteurs concentrés dans les bilans des banques, on va les retrouver en petite dose dans les bilans de tous les investisseurs Et donc, ce n'est pas très grave. Hein. S'il y a une crise macroéconomique majeure, au lieu d'avoir des faillites de banques, on perdra un tout petit peu ici et là dans les comptes des assureurs, des caisses de retraite, etc. Et ceci ne générera pas de crise grave, systémique dans le système financier. Cet argument est vrai. Hein. Je crois que c'est un argument qu'il faut garder à l'esprit. Il est assez légitime de ne pas concentrer tous les risques de faillite dans les comptes des banques. Le problème des partisans de cet argument, c'est qu'ils n'avaient pas envisagé ce que ça produirait comme changement du comportement des banques, et en particulier dans le monde anglo-saxon, beaucoup moins, heureusement, dans le monde européen continental. Ce comportement consiste à dire, ben, pour parler simplement, puisque je ne vais pas garder, moi, banquier, le risque de défaut de mon emprunteur, peu m'importe que l'emprunteur fasse défaut, donc je peux prêter à n'importe qui. Et le subprime aux États-Unis, c'est bien ceci qui s'est produit. Alors je vais vous demander de regarder deux courbes, parce que vous avez en vert, et sur l'échelle de droite, c'est des pourcents, c'est le taux de défaut sur les crédits subprime. Donc vous avez ces crédits immobiliers qui sont faits aux Américains les moins fortunés. Vous voyez que même quand ça va bien, on a des taux de défaut mais qui sont de l'ordre de 10%, par exemple en 2004, et à la fin de l'année dernière, on est abondé à 18%. C'est le taux de défaut par rapport à l'ensemble des crédits qui ont été faits. Si vous regardez, par exemple, en ce moment, le taux de défaut sur les crédits qui ont été faits en 2006, c'est que les crédits subprime, au bout de deux ans, ont des taux d'intérêt qui montent très fortement. Au début, il y a un taux bas, ça s'appelle un taux teaser, et après, on monte à des taux plus élevés, et c'est à ce moment-là que l'emprunteur fait défaut, hein, c'est-à-dire dit qu'il ne peut pas payer. Les emprunteurs en subprime de 2006 ont des taux de défaut sur leurs crédits qui sont de l'ordre de 40%. C'est-à-dire que 40% des emprunteurs disent à leur banquier, vous savez, c'est faillite personnelle, hein, no recourse, comme on dit aux États-Unis. Donc on ne va pas saisir le revenu de l'emprunteur, il rend son crédit et la maison qui va avec, hein, et pour solde de tout compte avec sa banque. 40%. Et alors pourquoi ça? Parce que vous voyez, voici l'encours de crédit subprime. On a une poussée énorme des crédits subprime en 2005 et en 2006. Et à un moment, on s'est mis à faire du crédit, un, à des individus à revenus faibles, deux, à des individus dont on savait, en faisant le crédit, qu'ils ne pourraient pas rembourser sur la base de leurs revenus. Et donc, comme l'a dit Jean-Marc à l'instant, la seule possibilité était qu'ils remboursent sur des plus-values immobilières, en retirant du crédit sur les plus-values pour leur permettre de disposer de davantage de revenus. Et trois, au moment où on fait le maximum de crédit subprime en 2006, déjà les prix des maisons aux États-Unis n'augmentent plus, et déjà les taux de défaut sont mis à augmenter beaucoup. Donc les banques ont prêté le plus au pire moment. Hein, et je crois consciemment, en se disant quelle importance, en gros c'est un crétin d'assureur qui aura le crédit dans son bilan au moment où cet emprunteur ne pourra pas rembourser. Donc il va falloir régler dans le futur, et j'arrête là sur ce premier point, un problème qui est extrêmement important, qui est le problème de maintenir la titrisation. À nouveau, qui est quelque chose d'important, il est parfaitement optimal qu'on répartisse les risques de défaut sur une base plus large que sur les banques, mais en même temps d'avoir des titrisations qui permettent, enfin qui génèrent des incitations pour que les banques fassent attention à la solidité des emprunteurs, ce qui n'a clairement pas été le cas, en tout cas dans le monde anglo-saxon, dans la période récente. Alors c'est de là que part le problème, puisque bien entendu les taux de défaut sur les crédits subprime génèrent des taux de défaut équivalents sur tous les actifs titrisés bâtis sur les crédits, hein, qui génèrent une partie importante des pertes bancaires dont vous entendez parler tous les jours, puis par assimilation tous les autres titres de titrisation, mais d'autres choses que des crédits subprime, hein, des crédits aux entreprises, des crédits sur les cartes de crédit, des créances commerciales, etc., se mettent à avoir le même sort que les crédits, que les actifs qui sont bâtis à partir des crédits subprime, simplement par assimilation, hein, de tout ce qui est titrisé finalement est dangereux, hein, et est rejeté par les investisseurs. Et le point de départ de la crise, c'est quand même assez largement cette perte, je dirais, de la supervision des emprunteurs par les banques anglo-saxonnes, qui est quelque chose qui est grave. Et évidemment, quand un assureur devient indirectement propriétaire d'une créance titrisée, il n'a lui aucun moyen de surveiller la solidité financière des emprunteurs. Hein, c'est le banquier et lui seul qui peut le faire au moment où il distribue le crédit. Alors on répondra à peut-être toutes les questions tout à l'heure, si vous voulez, des détails sur la titrisation. Deuxième problème qui est apparu clairement dans cette crise, je crois que Pierre Jaillet veut y revenir tout à l'heure, mais on va l'aborder de façon différente, et Jean-Marc en a déjà dit un mot, qui est le problème de la liquidité. Ce qui a amplifié la gravité de la crise, c'est qu'à partir donc de ces pertes sur un certain nombre d'actifs financiers, Alors, dans certains cas, des vraies pertes, quand c'est des actifs liés au crédit subprime. Dans d'autres cas, des pertes fictives, je dirais. Des pertes parce que les prix de marché ont baissé sans qu'il y ait de problème avec la qualité des actifs quand il s'agit du reste des actifs titrisés. À partir de cela, s'est développée la crise s'est aggravée en devenant une crise de disparition de la liquidité sur certains marchés. C'est-à-dire, disparition de la liquidité, ça veut dire que sur certains marchés, il n'y a plus d'acheteurs ou il n'y a plus de prêteurs. C'est-à-dire, personne ne vient alimenter le marché. Et ceci, puisque nous limitons aux banques, a été parfaitement grave dans le cas des banques. Ce que vous avez ici, c'est, alors je vais reprendre le cas européen, donc prenez la ligne verte, ce que vous avez c'est des pourcents, vous voyez, c'est l'écart entre le taux d'intérêt auquel les banques se financent, à 3 mois, sur le marché interbancaire, moins le taux d'intérêt normal, je dirais à 3 mois, je ne rentre pas dans les détails. Donc vous voyez que d'habitude cet écart est à peu près de zéro, si vous suivez la ligne verte, et puis qu'à partir de la crise, vous avez un énorme écart, qui est de l'ordre, vous voyez, de presque 1%, c'est pas beaucoup, les banques se financent 1% plus cher que ce qu'elles devraient, et ceci de façon, vous voyez, qui ne s'est pas corrigé dans la période récente, c'est qui s'est corrigé, qui s'est redégradé, parce qu'il n'y a plus de prêteurs, on ne veut plus prêter aux banques. Et ceci est la cause de une des faillites dont a parlé Jean-Marc Vittori, qui est la banque anglaise Northern Rock, dont vous avez entendu parler, mais aurait pu être la cause de beaucoup d'autres faillites de banques, parce qu'en effet, le métier des banques, c'est quand même normalement de recueillir de l'épargne liquide pour en faire des emplois dont certains ne sont pas liquides. Il faut que quelqu'un finance les investissements dans une économie, que ce soit des investissements logements, des investissements d'entreprise, des infrastructures publiques. Et quand vous avez fait un crédit à long terme pour financer un investissement, vous ne pouvez pas récupérer l'argent. Cet argent est immobilisé par définition. Et la ressource qui finance ce crédit est assez souvent une ressource liquide qui peut sortir du compte de la banque à tout moment, surtout quand il y a course au dépôt, bank run, comme on dit, dont parlait Jean-Marc sur Northern Rock. Alors, vous avez vu peut-être à la télévision que le bank run sur Northern Rock, c'est un bank run anglais. Donc les clients dans Northern Rock allaient chercher leur argent à la banque, mais en prenant un numéro pour être à la bonne place dans la queue. Donc je vous laisse imaginer un bank run italien, ça serait plus spectaculaire. La réflexion des économistes et des banques centrales depuis longtemps a porté là-dessus. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut avoir ce problème, c'est-à-dire qu'une banque ne peut pas rembourser les gens qui lui ont prêté de l'argent à court terme, puisqu'elle a utilisé cet argent pour faire des utilisations à long terme. Et c'est pour cela qu'on a mis en place deux mécanismes, qui sont des mécanismes qui empêchent normalement qu'il y ait des courses au dépôt. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort. C'est le fait que si une banque a désespérément besoin de liquidité, la banque centrale lui prête, et donc la banque ne fait pas faillite, puisqu'elle retrouve de la liquidité auprès de la banque centrale. Et le second mécanisme, c'est l'assurance des dépôts. Vous-même, quand vous avez un dépôt dans une banque, ce dépôt est assuré à un certain plafond, qui dépend des pays. Et donc, si la banque fait faillite, votre dépôt vous sera quand même remboursé par un système d'assurance collective du monde bancaire. Et donc, on pensait qu'il ne pouvait plus y avoir de crise de liquidité des banques. Or, on s'est aperçu en réalité qu'elle s'est placée sur un autre endroit, qui est le marché interbancaire. C'est à l'endroit. Donc, ce qui s'est passé, ce n'est pas que les déposants, à part Northern Rock, qui est un peu quand même un cas particulier, on n'a pas vu les déposants se précipiter dans les guichets de la Société Générale, du BNP ou de qui sais-je, que ce n'est pas, jamais ça ne pourrait arriver, on a vu les banques ne plus se prêter entre elles. C'est-à-dire que la crise de liquidité a pris une forme tout à fait nouvelle, et les banques centrales, au départ, sont toujours assez mal armées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas convaincre les déposants qu'il ne faut pas venir chercher leur argent. Il faut faire en sorte que les banques retrouvent de la liquidité sur des marchés financiers normaux qui sont prévus pour ça. Et ça pose une question, alors que j'aborde très rapidement, parce que je ne veux pas être trop long, mais qui est très importante, c'est la façon dont les banques centrales prêtent aux banques. Les banques centrales prêtent aux banques normalement de façon très conservatrice. C'est-à-dire que les banques centrales prêtent aux banques en échange de garanties hypothécaires extrêmement sûres, essentiellement des papiers publics, etc. Et ça, ça ne marche plus. Et on voit que dans certaines banques centrales, comme la Réserve fédérale, je dis, ou la Banque d'Angleterre, sont passées à des pratiques beaucoup plus non conventionnelles, en prêtant aux banques en échange d'actifs beaucoup plus risqués, des actifs titrisés, des ABS, même des crédits directement, en leur prêtant bilatéralement, hein, et pas de façon collective, en leur prêtant sur des périodes de temps très longues. Donc la question qui se pose, c'est un, comment est-ce que les banques centrales doivent assurer la liquidité des banques, puisque à nouveau une banque ne peut pas être liquide, hein, c'est pas fait pour ça, c'est fait justement pour être illiquide. Et deuxièmement, est-ce que en cas de crise, les banques centrales doivent récupérer toutes les cochonneries, pour parler clairement, que les banques ont dans leur bilan et qu'elles ne veulent pas garder? Ce que font certaines, à nouveau la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre, ce que ne fait pas vraiment la BCE, mais est-ce que c'est dangereux? Moi, ma position personnelle est que non, qu'il est assez légitime que les banques centrales reprennent des actifs financiers très risqués aux banques quand ça va mal, parce qu'à nouveau, il faut assurer la liquidité bancaire qui ne s'assure pas toute seule, mais c'est un point de débat. Donc, voilà. Et donc, vous voyez, le vrai sujet, c'est à quoi ça sert les banques? Si maintenant on met des ratios réglementaires en disant aux banques, comme vous faites des usages illiquides de l'argent, vous devez avoir les mêmes ressources d'aussi long terme, donc vous n'avez plus le droit de prendre de l'épargne liquide pour faire des crédits à long terme, les banques ne servent plus à rien. Donc il faut bien trouver un système où les banques prennent de l'épargne liquide et la prêtent à long terme, c'est-à-dire courent le risque d'illiquidité, et il faut que l'organisation institutionnelle fasse que ce risque d'illiquidité ne se réalise pas. Donc c'est un vrai problème, c'est ce qu'on appelle la transformation, il faut que quelqu'un se sacrifie pour récupérer votre épargne qui est plutôt à court terme, et pour financer à long terme l'économie, et si les banques ne le font plus, alors qui va le faire? Troisième sujet, comment, alors je passe maintenant pour finir rapidement aux deux sujets du futur, qui sont, premier sujet, un, est-ce que les banques vont réussir à continuer à fonctionner normalement? Et en particulier, où vont-elles trouver le capital, les fonds propres qui leur sont nécessaires? Vous savez qu'une des réglementations essentielles qui touche les banques, c'est qu'elles doivent avoir du capital, en proportion, je passe sur les détails qui sont compliqués, en proportion de l'usage qu'elles font de l'argent, hein, plus elles font des usages risqués, plus elles ont besoin de capital. La titrisation dont on parlait au début, ça a été un facteur tout à fait important pour les banques, ça leur a permis de ne pas avoir le capital qu'elles auraient dû avoir si elles avaient gardé les crédits. Quand vous titrisez un crédit, vous sortez comme banquier de votre bilan et vous n'avez plus à avoir des fonds propres adossés à ce crédit. Donc la titrisation, ça a été en fait pour les banques une arme tout à fait merveilleuse pour ne pas avoir de capital. Et ne pas avoir de capital, ça permet de bien rémunérer, comme vous le savez. Hein. La question, c'est qu'aujourd'hui, la titrisation est quand même très certainement gravement affectée par la crise. Parce qu'on a dit avant, du point de vue de la surveillance d'emprunteurs, et aussi parce que les investisseurs, tous les assureurs, etc., dont on parlait avant, sont de plus en plus réticents à détenir des actifs titrisés. C'est trop compliqué, c'est difficile à valoriser. On s'est aperçu que les prix de marché pouvaient chuter de façon vertigineuse sans préavis. Hein. Et donc, probablement, la titrisation sera d'ampleur, de taille beaucoup plus faible dans le futur que c'était dans le passé. Donc, un problème majeur qui va se poser aux banques, c'est le problème de trouver du capital pour être capable de continuer à faire du crédit si les banques gardent les crédits. Alors, vous savez que le FMI, à part les chiffres fantaisistes de pertes bancaires qu'il a publiés, a aussi publié des prévisions économiques fantaisistes, extrêmement pessimistes, l'argument étant, comme les banques ne vont pas trouver de capital, elles vont arrêter de prêter. Et comme les banques ne prêteront plus, ben les entreprises seront asséchées, les particuliers seront asséchés, et l'économie va s'arrêter, puisque les banques ne seront plus en état de prêter, puisque maintenant, il faudrait qu'on prête qu'elles aient des fonds propres, et elles n'en ont pas. Alors, il ne faut pas négliger, nous avons vraiment une difficulté. Je vais vous montrer, par exemple, les États-Unis. Ce que vous avez en gris, là, hein, alors vous voyez, c'est un peu en dessous de zéro depuis 2003, c'est les investissements en actions par les assureurs, les fonds de pension, les caisses de retraite aux États-Unis. Et vous voyez qu'ils ont une particularité, c'est qu'il n'y en a pas. Hein. Donc dans le monde occidental, aux États-Unis, en Europe, au Japon, les investisseurs institutionnels qui normalement devraient acheter des actions n'en achètent pas. Et ils n'en achètent pas parce qu'ils ont peur, mais pas tellement ça, surtout parce qu'on leur a donné des réglementations qui les découragent d'en détenir. Hein. En gros, on a dit aux assureurs, hein, c'est des règles de solvabilité, c'est très dangereux d'avoir des actions. Et donc, si vous avez des actions, vous devez avoir vous-même énormément de fonds propres. Donc, le monde des investisseurs institutionnels n'est plus acheteur d'actions. Donc, si une banque française, européenne ou américaine cherche à lever du capital pour être capable de continuer à prêter à ses clients, elle ne va pas trouver du capital action localement. Il n'y a personne qui investit en actions aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis. Et donc, qu'ont fait les banques? Je crois qu'elles ont commencé un mouvement, et vous l'avez vu, et j'arrête tout de suite, sur une demi-seconde, qui consiste à aller chercher du capital en action là où il y en a, c'est-à-dire dans les pays émergents, dans le Moyen-Orient, en Asie, c'est les fonds souverains, en particulier dont vous avez entendu parler. Et donc, on est ici devant une vraie difficulté qui est, il va falloir que les banques se capitalisent sur une base régulière beaucoup plus, qui va aller donner du capital aux banques pour qu'elles puissent continuer à travailler, pour éviter donc le crédit crunch, hein, le rationnement du crédit qu'évoque le FMI, et qu'on n'a pas pour l'instant. Si vous regardez la ligne verte ici, c'est des taux de croissance sur un an. Et pour l'instant, le crédit aux entreprises continue à augmenter extrêmement rapidement, je pense que Olivier en dira un mot tout à l'heure, hein, mais potentiellement, on a une menace, hein, qui est que si les banques n'arrivent pas à trouver des investisseurs qui viennent dans leur capital, elles arrêteront de faire du crédit, et on aura un problème de rationnement. Dernier point, et je prends 5 secondes, les banques elles-mêmes se financent plus cher. Ce que vous avez ici, c'est les écarts de taux par rapport au taux sans risque que paient aujourd'hui les banques pour se financer à long terme. Ici, c'est des dettes subordonnées. Donc, vous voyez que depuis la crise, les banques se financent beaucoup plus cher. Et comme les banques se financent plus cher, évidemment, elles vont aussi prêter plus cher. Donc, pour les chefs d'entreprise de la salle, une mauvaise nouvelle, c'est que le crédit va être plus cher. Pour une raison légitime, c'est que les banques sont devenues plus risquées puisqu'elles gardent des crédits qu'elles ne titrisent plus. Donc comme elles sont plus risquées, elles se financent elles-mêmes plus cher. Et comme elles se financent elles-mêmes plus cher, elles vont prêter elles-mêmes plus cher. Conclusion, et je passe tout de suite la parole à Pierre. Il me semble qu'il y a deux conclusions ici, et on y reviendra sûrement dans le débat. Un, très probablement, le monde du crédit bancaire facile est terminé. Les banques vont moins titriser. Ce qui était très pratique pour elles, puisqu'elles ne gardaient pas les crédits, elles avaient besoin d'avoir du fonds propre en face des crédits. Les banques auront du mal à trouver suffisamment de capital supplémentaire. Les banques vont faire facturer plus cher les crédits, puisque le coût des ressources bancaires est plus élevé. Elles vont devenir plus prudentes. Donc je pense qu'on va sortir du monde du crédit facile qu'évoquait Jean-Marc. Deuxièmement, et on en parlera peut-être tout à l'heure, l'environnement qui a fabriqué le crédit facile est toujours présent. Il y a toujours énormément de liquidités, il y a toujours énormément d'appétit pour le rendement des investissements. Cette abondance de liquidités et ce rendement élevé demandé pour les investissements depuis 6 ou 7 ans était passé par le crédit facile. Hein, la liquidité faisait du crédit bancaire pas cher, facile, on prêtait à des gens à qui on n'aurait pas dû prêter. Si c'est fini, où va aller la liquidité excessive? Où est-ce que les investisseurs gourmands vont trouver les rendements qu'ils demandent? Si c'est dû sur les actifs titrisés des banques, la réponse en ce moment, c'est sur le riz. Hein, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est durable, c'est certainement pas désirable. Mais il reste un autre problème à régler, hein, qui est que ce qui a fabriqué cette crise, et Jean-Marc le disait très bien tout à l'heure, qui est l'excès de liquidité mondiale permettant d'alimenter cette machine à fabriquer du crédit. Si la machine à fabriquer du crédit, elle, s'est arrêtée pour la raison qu'on a vue, ou en tout cas va être beaucoup plus raisonnable maintenant, l'environnement de liquidité excessive est toujours présent, et donc cette liquidité excessive ressortira ailleurs si elle ne ressort pas dans le crédit bancaire. Merci beaucoup.